Maxime Maury, Economica.
Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour. Dire la
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Économie. Nous nous retrouvons comme
à la coutume.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Mais vous dites Esprit Économie. Effectivement, c'est une émission économique. Vous avez raison.
Il y a de l'économie et de l'esprit, puisque vous êtes là, Maxime. Donc, Esprit Occitanie et Economica, bien sûr. Alors, nous nous retrouvons comme d'habitude et nos auditeurs nous excuseront les peut-être quelques petits loupés sonores dans la mesure où nous ne sommes pas en studio, mais toujours par ces fameux systèmes que nous avons découverts, enfin, en tout cas pour ma part, depuis la pandémie. Et il peut arriver effectivement que, ou sur mes causes du Lot où je suis, ou Albi où est Maxime, nous ayons quelques loupés sonores, donc toutes nos excuses si ça arrive, si c'est le cas. Nous allons démarrer, comme à l'accoutumée, par nos citations respectives. Alors tiens, Maxime, d'habitude c'est toujours moi qui commence, allez-y, faites-nous connaître la nôtre, je suis sûr que vous en avez une.
Alors vous êtes bien aimable, elle va être très terre-à-terre. Au niveau de circulation actuelle de ce virus, Le laisser circuler à ce niveau est une faute sanitaire. Et cette faute sanitaire est une faute politique. Et c'est signé Axel Kahn.
Voilà, je pense que nous reviendrons sur Axel
Kahn. Oui, c'est pour introduire la suite.
Voilà, qui est un homme d'une grande rigueur intellectuelle et technique, on peut le dire. Alors moi, je vais remonter un peu dans le temps. Je vais vous citer un monsieur qui est né en 1842 et mort en 1898. Il s'appelait Mallarmé, mais vous allez voir, ça rejoint un peu les préoccupations actuelles, notamment celles qui me préoccupe souvent, et je citais Gérald Bronner et son apocalypse cognitive. Voilà ce qu'a écrit Mallarmé, « Une cervelle oisive et l'atelier du diable ». Je pense qu'on peut dire ce genre de choses aujourd'hui. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le fond de notre émission. Le sommaire, il est, vous le connaissez à peu près. Nous allons vous administrer, si je puis dire, quelques brèves, faire un point sur la situation de la France, et la colonne vertébrale sera le scénario de sortie de crise en 2022 et surtout les risques de sortie de route qui peuvent contrarier ce scénario de sortie de crise, sujet bien évidemment choisi et qui sera largement développé par Maxime. Et nous finirons par l'accaparement des surfaces agricoles au plan mondial qui commence à devenir soucieuse, à poser problème. Donc nous verrons ça en fin d'émission et puis nous aurons nos rubriques habituelles. Alors, en bref, écoutez, j'en ai trois. La première va concerner les géants pharmaceutiques. Il y a trois gros fabricants de vaccins au monde, c'est GSK, Merck et Sanofi, et tout le monde a remarqué qu'ils étaient complètement à la traîne dans la lutte qui est contre la pandémie aujourd'hui, et ils en sont réduits à courir derrière de beaucoup plus petits opérateurs qu'eux, à savoir par exemple Moderna et BioNTech. Alors, l'extrême rareté des vaccins que nous constatons au quotidien dans le monde s'explique par le fait que ces grands groupes, eh bien, ils sont portés disparus sur le front du vaccin. Et à titre d'exemple, les actions de ces trois-là, GSK, on va rajouter Merck et Sanofi, ont baissé jusqu'à 30%. Donc, vous voyez que le sujet est quand même pas neutre. Pourquoi sont-ils, si vous me passez l'expression et le mot, largués? Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas consacrés entièrement à la recherche liée au Covid-19 et certains observateurs disent qu'ils n'y sont pas consacrés tout simplement pour ne pas se détourner de leurs activités principales. Alors, je vous cite un commentaire de Zain Rizvi qui a écrit dans le Financial Times, l'incapacité de trois des plus grands producteurs de vaccins au monde à prendre cette crise au sérieux et à réagir en appelant tout le monde sur le pont montre bien que le modèle économique de l'industrie pharmaceutique échoue à donner la priorité aux besoins en santé publique. Et il rappelle que le vaccin contre Ebola, le vaccin de Merck à l'époque, avait été un triomphe humanitaire, mais qui n'avait pas rapporté d'argent. Et donc, on comprend que depuis plus d'une quinzaine d'années, le secteur des vaccins était à l'arrière-plan, même si de nouveaux produits à forte croissance, par exemple comme le Gardasil de Merck ou contre le papillomavirus et le Shingrix de GSK contre le Zona ont permis de sortir des sentiers battus, mais pas suffisamment pour inciter les sociétés à injecter de l'argent dans le développement. Et donc, on soupçonne fortement les laboratoires pharmaceutiques d'avoir réduit la voilure il y a 10 ans, d'avoir supprimé tous leurs projets de vaccins qui en étaient au stade préliminaire, et qu'ils aient préféré investir dans des médicaments contre le cancer et des maladies rares. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça se vend très bien et les progrès techniques qui alimentent la demande garantissent des produits élevés. Donc pourquoi aujourd'hui nous sommes un peu dans la panade et pourquoi certains petits laboratoires, c'est relatif, mais beaucoup plus petits que ceux que j'ai cités en démarrant, eh bien, ont pris la main et aujourd'hui n'ont pas la capacité de production suffisante et n'ont pas la force de frappe, ce qui fait que nous sommes paralysés dans la course au vaccin par le manque de doses. Un mot sur la société.
Une réaction. Il y a un sujet sous-jacent, Jacques, à ça, mais on ne le traitera pas ce matin parce qu'il faudrait beaucoup de temps. C'est la levée des brevets. Nous rentrons dans une sorte d'économie de guerre, d'autant plus qu'on n'en parle pas, mais quand les vaccins actuels auront été administrés, il faudra en trouver d'autres contre les nouveaux variants. Et donc, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce que on peut mutualiser les productions pour soutenir l'effort de guerre. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ce sujet reviendra dans les mois qui viennent.
On peut même en aller plus loin, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être un jour nous ferons une spéciale ou une thématique là-dessus, dire que la santé est un bien commun et qu'on ne peut pas la laisser. On voit aujourd'hui le fait de l'avoir laissé aux mains de sociétés privées qui ont une préoccupation purement financière, on voit le danger que ça nous fait courir et sur le plan physique et sur le plan économique. Alors la Société Générale, qui est une banque française sur laquelle il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, mais vous rebondirez Maxime, eh bien la Société Générale qui allait faire des opérations dans l'île anglo-normande de Jersey, bien connue de tous les fraudeurs fiscaux, on peut le dire autrement de ceux qui pratiquent des montages fiscaux parfois un peu hardis, a été condamné par Jersey et par, ils ont une commission des services financiers et qu'il y a condamné la Société Générale à une amende, bon, qui n'est pas très élevée, 719 livres, ce qui fait à peu près 860 000 euros, dans la mesure où Jersey a considéré que cette même Société Générale et deux autres de ses filiales ne s'étaient pas assurées qu'elles n'étaient pas employées par le crime financier. Alors, vous voyez, c'est nouveau, on sent que Jersey, Guernesey, il y a l'île de Man aussi à côté, sont en train d'essayer de se refaire un peu une virginité vis-à-vis de l'Europe. Et n'oublions pas qu'ils se sont engagés d'ici 2023 à lever l'identité des véritables propriétaires des 76 000 sociétés qu'ils ont chez eux, qui sont domiciliés chez eux. Donc, peut-être que les choses en matière de contrôle fiscal vont évoluer. En tout cas, la Société Générale s'est fait prendre un peu la main dans le sac. En parlant de pétrole aussi, et surtout des pétroliers, Maxime, est-ce que vous avez des actions de pétroliers ?
Non. Non, bon. Je n'ai d'ailleurs aucune action.
Si vous aviez des actions.
Car quand j'étais directeur régional de la Banque de France, cela m'était interdit pour des raisons déontologiques.
Maintenant, vous pouvez boursicoter à loisir. Et alors, si vous achetez des actions de pétroliers et donc des cinq plus grandes compagnies pétrolières, donc ExxonMobil, Chevron, BP, Shell et Total, vous serez un homme heureux parce qu'ils servent des dividendes extrêmement gras. En 2020, ils ont servi quasiment 50 milliards de dollars de dividendes. Lorsqu'on sait que leurs activités d'extraction et de distribution d'hydrocarbures n'ont généré que 20,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. Donc, ça veut dire que même s'ils ont baissé le montant de versement de leurs dividendes de 30% par rapport à 2019, ils ont aussi baissé leurs investissements parce que nous savons que le secteur est en crise. Nous l'avons largement rappelé. Nous avons même d'ailleurs fait, dans le cadre de Résilience, une émission spéciale là-dessus avec Mathieu Ozano. Mais malgré cela, les pétroliers continuent, et malgré des résultats absolument catastrophiques en 2020, ils continuent à servir des dividendes extrêmement gras. Alors, ça a toujours été, chez ces cinq entreprises, une pratique régulière. Comment font-ils pour verser plus de dividendes qu'ils n'ont de trésorerie? Bien, tout simplement, ils recourent à l'emprunt et à la vente d'actifs. Voilà, donc c'est certainement ce genre de pratique va les conduire dans une impasse, mais il y a quand même une réalité, c'est mis en lumière par ces résultats. Ils ne peuvent plus.
On s'entend plus.
Vous ne m'entendez plus, Maxime? Ah, nous avons un petit problème de connexion peut-être. Alors, je poursuis mon discours. Maxime va peut-être nous rejoindre. Donc, je disais que les pétroliers sont de plus en plus sous pression et mis sous pression par les investisseurs qui leur demandent d'adopter un nouveau modèle plus durable. Oui, Maxime, je disais donc que les énergies fossiles sont au surplus extrêmement surveillées par les investisseurs responsables dans leur stratégie et plusieurs d'entre eux ont décidé d'arrêter d'investir dans les hydrocarbures non conventionnels. Donc, quand on en est à vendre les bijoux de famille, que l'on n'investit plus dans la recherche, une recherche fort onéreuse et de plus en plus onéreuse, on peut quand même craindre pour ces sociétés pétrolières et leur avenir, n'est-ce pas, Maxime ?
Oui, nous savons que nous sommes rentrés dans la deuxième moitié du pétrole, c'est-à-dire que nous savons que le pétrole va décliner et disparaître. Mais là, ce que vous décrivez, Jacques, c'est que ils vont arrêter les investissements et l'exploration. Donc, ça veut dire que ça pourrait s'accélérer, le déclin pourrait s'accélérer plus rapidement que prévu. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'un peu énigmatique. On voit des bateaux à propulsion nucléaire en Russie profiter de la fonte du pergélisol pour partir explorer la mer qui se trouve au nord de la Sibérie. Donc, je me demande si demain, le pétrole restant ne sera pas russe en grande partie.
Oui, peut-être, mais ils ont encore beaucoup de recherches à faire. On est en pleine déplétion pétrolière en Russie, comme en Algérie d'ailleurs. Donc, tout ça, ce sont des pays qui essayent frénétiquement de trouver des débouchés avant qu'ils puissent forer, pour autant que le pergélisol disparaisse complètement, avec tous les autres problèmes que ça va nous poser en termes de réchauffement climatique et de nouveaux virus. Je crois que l'avenir, et je suis désolé de le dire parce que nous sommes souvent extrêmement sombres dans nos jugements, l'avenir n'est pas très souriant.
Oui, alors ce n'est pas que nous sommes sombres, c'est que nous sommes attachés aux faits, et nos auditeurs qui sont peut-être un peu perdus, il faut leur préciser ce que nous savons et que nous avons déjà dit, Jacques, c'est que depuis 2008, les pétroles traditionnels sont en déclin. Jusqu'en 2019, la production a augmenté grâce aux schistes, mais maintenant les schistes sont en déclin. Et ce que vous décrivez dans votre bref montre que l'exploration ne va pas être relancée puisqu'il n'y a plus d'investissement.
Bien. Laissons ce sujet, délaissons-le et revenons dans notre beau pays de France, faire un petit point, puisqu'on est à peu près à un an après le début de la crise, avec une économie dont on pourrait se demander si elle est en convalescence ou pas. Est-ce que nous allons vers une guérison? Elle paraît assez lointaine, avec des prévisions de croissance de 1% pour le premier trimestre. Notre niveau d'activité est quand même en recul de 4% par rapport à la situation pré-Covid, si on écoute ce que nous a dit l'INSEE dans le 11 mars, jeudi dernier. Et on peut également regarder ce qui se passe au niveau du produit intérieur brut. Normalement, le deuxième trimestre, nous aurions dû avoir une augmentation de 1%, ce qui constitue un recul de 3% par rapport à l'avant-crise. Qu'en est-il exactement, Maxime ?
Bon, trois chiffres résument la situation, c'est les 3,5. Alors, Le premier 5, c'est nous sommes à peu près à 5% au-dessous du niveau de 2019, mais vous avez nuancé en disant 4, et ce matin, pour l'industrie manufacturière, le chiffre est de moins 3. Bon. Le deuxième 5, c'est le gouverneur de la Banque de France qui s'enthousiasme et qui nous dit nous allons avoir une croissance de plus de 5% cette année. Oui, mais à condition de maîtriser la crise sanitaire, à condition qu'il n'y ait pas de crise financière, et j'ai des doutes à ce sujet. Et le troisième 5, c'est Rexecode, qui est un institut de conjoncture, qui nous dit que depuis le début de la crise, les marges des entreprises ont baissé de 5%, le chiffre exact est de 4% d'ailleurs, et que dans ces conditions, l'autofinancement, la capacité d'autofinancement, est retombée au niveau le plus bas depuis 2007. Et donc vous voyez que ça va être un obstacle à la reprise, hein, si les entreprises n'ont pas les moyens d'investir. Voilà. Et ça pose la question des 200 milliards d'épargne qu'il va falloir essayer de diriger vers les fonds propres des entreprises. Et nous en avions parlé lors de nos précédentes émissions. Voilà en quelques mots la situation économique.
Oui, qui n'est pas.
Mais le vrai sujet, c'est la situation sanitaire.
Oui, alors c'est ce que disait d'ailleurs, vous le rejoignez, ou vous rejoignez tous les deux, Julien Pouget, qui est chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Qui dit la situation économique au premier trimestre se situe sur une ligne de crête ou un entre-deux avec des signes de lassitude et d'autres de résistance. Et il ajoute, on peut presque calquer la situation économique sur la situation sanitaire, tellement les deux sont liés.
Oui, alors quelques mots sur la situation sanitaire et surtout une réflexion sur le fait que nous nous racontons une histoire à nous-mêmes et qu'il n'y a pas de véritable débat sur la stratégie sanitaire. Et en réalité, il n'y a pas de stratégie sanitaire. Alors, les chiffres, nous serons ce soir à plus de 4000 cas de réanimation. Les dernières prévisions de l'Institut Pasteur nous montrent qu'à la fin du mois, alors nous sommes dans la troisième vague et nous sommes dans la deuxième épidémie. Troisième vague, deuxième épidémie, parce que c'est un virus mutant qui est en train de remplacer le précédent. Et à la fin du mois, ce que nous dit l'Institut Pasteur, c'est que la vague sera au moins aussi haute que la première vague d'avril 2020, et donc du premier confinement, qui a été un confinement très dur. Voilà les perspectives. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 66% de variants. On a tort d'ailleurs de parler de variants. Ce sont des mutants, c'est un virus qui remplace un autre. Et ce chiffre est exactement celui qui avait été prévu par le Conseil scientifique au mois de janvier. Alors, la vague est peut-être un peu moins haute que prévu, mais la mutation du virus est bien au rendez-vous. Et il y a deux sujets qui sont interdits en France par conformisme intellectuel. Le premier, c'est que dans ces mutants, il y a le Sud-Africain et le Brésilien qui résistent au vaccin. Alors actuellement, ils représentent 6% de la circulation virale, mais le mutant anglais représentait lui aussi 6% au début janvier. Et donc janvier, février, mars, en 3 mois, le mutant anglais est passé de 6% à 60%. Donc que va-t-il se passer demain, Jacques, si… Les mutants brésiliens et sud-africains qui résistent au vaccin deviennent à leur tour majoritaires. Et je voudrais dénoncer le fait que ces mutants sont actuellement cantonnés sur quelques territoires, je pense à la Moselle, je pense à Metz, je pense à Besançon, et qu'a priori, il n'y a aucun débat et rien n'est fait pour les arrêter. C'est-à-dire qu'il serait logique, comme le demande d'ailleurs François Grosdidier, le maire de Metz, de confiner la Moselle pour empêcher cette circulation vers le reste de la France. Le débat est absolument impossible. Aucun média ne parle de ça. Et le deuxième sujet interdit, c'est le sujet cher à Madame Hill et à Douce Blasi d'ailleurs, c'est la question des tests salivaires. C'est-à-dire que pour éradiquer ce virus, il faudrait tester massivement, maison par maison, rue par rue, quartier par quartier, en suivant sa trace dans les eaux usées, et en utilisant ces tests massifs qui ont été utilisés en Asie et qui ont permis à l'Asie d'éradiquer. Le problème, c'est que le président Macron a abandonné toute stratégie sanitaire à la fin janvier, et il est de bon ton il a été de bon ton ces dernières semaines de dire « c'est formidable, il n'a pas écouté les scientifiques, il est enfin libre et on ne va pas être confiné ». Mais tout ça, c'est un gros bobard que nous nous racontons à nous-mêmes. En réalité, nous allons droit dans le mur. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on peut… Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est parler de la stratégie zéro Covid qui est proposée par les économistes Patrick Artus, Philippe Aguillon, par les membres du Conseil scientifique, par Axel Kahn et par Catherine Hill.
Nous allons y venir.
Voilà, mais on ne peut pas en parler. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on ne peut pas en parler dans les médias. C'est, le sujet est tabou.
Il n'y a rien de tabou pour nous, donc rien ne nous interdira d'en parler, puisque c'est un peu notre vocation. Avant de rentrer dans le sujet principal, et comme je ne voudrais pas vous interrompre dans cet envolé, je vous propose de faire notre première pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi, Un jour futur de Jean Ferrat. Doit-on voir un message derrière ce choix ?
Oui, vous avez dit lors de notre dernière émission que pour faire face aux crises environnementales qui tombent sur nous, et qui sont énormes, considérables, il faut changer la société. Et c'est une illustration de cette volonté de changer la société. Je précise d'ailleurs que les opinions politiques de Jean Ferrat n'ont rien à voir avec le sujet.
Bien évidemment, nous écoutons Jean Ferrat.
Un printemps s'est levé aux couleurs d'incendie. À chaque pays vivant, des grenades répondent. Homme de 50 ans, qu'avez-vous fait du monde? Regardez-le, l'enfant qui se dresse et qui dit: un jour futur, puis des millions de jours, j'avancerai parmi des millions d'hommes, brisant les murs de ce siècle trop lourd, croquant l'amour comme la rouge pomme. Regardez-le, l'enfant qui se dresse et qui dit: je ne connaissais pas la beauté des colères, je veux faire tomber ce vieux monde en poussière. L'avenir, l'avenir ne sera pas maudit. Un jour futur, puis des millions de jours, j'avancerai parmi des millions d'hommes, brisant les murs de ce siècle trop lourd, croquant l'amour comme la rouge pomme. Mon cœur est le pavé d'une rue de Paris. Désormais le bonheur me vient par les ruelles. J'invente des chansons et je les trouve belles. J'interdis d'interdire et ma tête fleurit. Un jour futur, puis des millions de jours, j'avancerai parmi des millions d'hommes, brisant les murs de ce siècle trop lourd, croquant l'amour comme la rouge pomme.
Voilà, c'était la voix chaude de Jean Ferrat, Un jour futur, le choix de Maxime Maury. Eh bien, Maxime, nous allons rentrer dans le corps de notre émission, la colonne vertébrale de notre émission, le scénario de crise, de sortie de crise pour 2022, et puis qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dérailler ce scénario?
Oui, le schéma de sortie de crise classique, c'est de dire qu'à la fin de 2022, nous aurons retrouvé le niveau d'activité de 2019. Et que, dans ces conditions, la BCE pourra suspendre son plan de soutien monétaire au printemps 2022, c'est-à-dire le plan de monétisation massive des dettes. Je rappelle juste un chiffre que je qualifie d'inouï. De 2015 à 2022, la BCE aura racheté en titre de dette, l'équivalent du tiers du PIB européen. C'est inouï. Et à ce moment-là, il y aurait parallèlement une refondation du pacte de stabilité européen, c'est-à-dire de nouvelles règles pour cantonner la dette, les déficits et avoir des trajectoires soutenables. D'ailleurs, ça ne sera pas le débat qui se profile, ce n'est pas du tout de revenir aux critères des 3%, des 60%, ça sera autre chose et ça sera vraisemblablement une feuille de route pays par pays. On peut y revenir si vous voulez. Mais voilà le schéma. Alors, le problème, c'est que tout ce schéma repose sur un retour normal de l'activité à la fin 2022. Et d'abord, sur la maîtrise de la crise sanitaire. Et donc, moi, j'affirme ici que sans une stratégie zéro Covid, nous ne maîtriserons pas la crise sanitaire avant longtemps, et je dirais avant 2022. Et pourquoi ? Mais parce que, je l'ai dit tout à l'heure, que va-t-il se passer si les virus résistants aux vaccins deviennent majoritaires dans 3 mois ? Et on voit bien que dans la course avec le virus anglais qui, lui, cède aux vaccins, nous vaccinons à la vitesse de l'escargot. Et donc, fin octobre, Emmanuel Macron avait défini une stratégie, 5000 contaminations par jour, redescendre à ce niveau pour pouvoir tester massivement. On a complètement abandonné cet objectif. Nous étions hier à 25 000 ou 27 000. Donc, c'est ce que Kahn dénonce comme une faute sanitaire majeure. Et dans ces conditions, on ne peut pas tester massivement. On teste au hasard, mais on ne peut pas faire le travail systématique préconisé par Catherine Hill, c'est-à-dire les tests salivaires, quartier par quartier, maison par maison. Et donc, je crains, et j'aimerais être démenti, vraiment de tout cœur, j'aimerais être démenti, mais il n'y a aucun débat. Je crains de tout cœur que nous ne maîtrisions pas la crise sanitaire avant 2022. D'ailleurs, ça veut dire, vous allez vous faire vacciner, je crois, par AstraZeneca, Jacques, oui. Vous l'avez déjà été. Bon. Eh bien, le président d'AstraZeneca a affirmé qu'il y aurait une troisième dose de vaccin. Il y aura une troisième dose de vaccin contre le Sud-Africain et contre le Brésilien. Et alors sur le plan scientifique, on sait faire. Alors AstraZeneca, ce n'est pas l'ARN messager, mais l'ARN messager sait faire parce qu'on a identifié les mutations du virus et on injectera dans l'ARN messager une protéine spike qui correspond aux mutations. Donc, ce n'est pas un défi scientifique, mais pour revenir à votre bref de tout à l'heure, c'est un défi industriel, c'est-à-dire qu'il va, nous rentrons dans une sorte d'économie de guerre. Il va falloir produire des vaccins, et encore des vaccins, et toujours des vaccins. Et en laissant circuler le virus comme nous l'avons laissé circuler, nous sommes menacés par de nouvelles mutations. Voilà vraiment la problématique dont il n'est pas possible aujourd'hui de débattre. Et je voudrais exprimer un sentiment de révolte, car les gens que j'ai cités, Patrick Artus, Philippe Aguillon, les membres du Conseil scientifique, Axel Kahn, Catherine Hill, mériteraient qu'il y ait un débat dans les grands médias. Il n'y en a aucun.
Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a finalement dans ce monde plusieurs vitesses en fonction des pays. Si on regarde l'Asie, qui aujourd'hui est sortie de cette pandémie alors que nous nous sommes complètement englués dedans,
oui.
C'est quand même extrêmement inquiétant parce que ces pays ont repris le cours de leur vie. Ce sont des pays que l'on disait émergents, il y a longtemps qu'ils ont émergé et que même ils sont en train de nous submerger. Eux, ils vont véritablement diriger le monde si les choses continuent à cette allure-là.
Oui, absolument. Le monde risque de se diviser entre les pays qui ont vaincu la pandémie et les pays dans lesquels celle-ci reste endémique. Moi, j'ai confiance dans la chancelière Merkel, parce que la chancelière Merkel est une scientifique, elle est avant tout docteur en sciences physiques. Et je pense que ce que je viens d'expliquer rapidement, elle l'a parfaitement compris, et elle va essayer d'entraîner son pays dans la stratégie zéro Covid. Je pense que l'Angleterre fera aussi la même chose. Et si le mouvement est amorcé, la France suivra. Mais, vous voyez, on est en dérapage par rapport à l'idée qu'on va maîtriser la pandémie en 2021. Et là où c'est quand même très grave, c'est que le président Macron nous explique à demi-mot que dans 6 semaines, c'est fini. Les promesses rendent les enfants joyeux et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Je rajouterai quand même, je ne veux pas doucher votre enthousiasme sur Mme Merkel, dont les qualités sont évidentes et éminentes, mais elle va bientôt descendre de charge, donc nous ne savons pas quel sera son ou sa successeur et quelle position il ou elle prendra. Première chose. Et deuxième chose, nous avons un horizon électoral devant nous important, d'abord départemental et régional, mais ça, ce sera de la mécanique habituelle, mais surtout nous avons une élection présidentielle dans lequel nous allons nous retrouver avec deux challengers faute d'avoir d'autres têtes qui émergent et d'autres compétences, c'est-à-dire Madame Le Pen et Monsieur Macron.
Oui.
Et donc là, nous allons rentrer dans une deuxième tempête, ou une troisième, parce qu'on a la tempête sanitaire, la tempête économique, et puis nous allons avoir une tempête politique, parce que tout cela est très incertain quant à celui qui risque d'être élu, puisque les abstentions et les déceptions provoquées par M. Macron un peu dans tous les camps, puisqu'il avait voulu rassembler, M. Macron risque de se retrouver en grande difficulté devant Mme Le Pen, et le fameux plafond de verre, peut-être, là, va exploser.
Oui, je partage complètement cette analyse. Je pense que Mme Le Pen est la grande favorite maintenant du scrutin 2022, et je précise tout de suite qu'elle n'aura pas ma voix. Pourquoi ? Parce que les Français risquent de se réveiller avec la gueule de bois au mois de mai-juin. Et vraiment, je souhaite me tromper, être démenti, mais la vaccination avance très lentement. Et je le répète encore, quand on va dire aux gens « mais il faut vous refaire vacciner à nouveau parce que votre vaccin ne sert plus à rien », ils vont dire « mais on ne nous l'avait pas dit, ça ». Et effectivement, on devrait débattre de ça aujourd'hui. Bon, donc… les Français vont avoir, une fois encore, l'impression qu'on leur a raconté des histoires. Et effectivement, ça risque de bénéficier à Mme Le Pen. Comme vous l'avez suggéré, d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y aura pas de candidat républicain. Enfin, ils ne sont pas capables de désigner un candidat. Ils sont divisés en 7 micro-partis. Et de même à gauche, on voit bien que la division va prévaloir. Donc, nous allons vers un match Macron-Le Pen. Et je pense que M. Macron risque de se présenter dans une situation très affaiblie.
Oui, compte tenu de la… Alors, bien sûr, Mme Le Pen n'aura pas ma voix non plus, mais compte tenu de sa faiblesse en matière d'économie et compte tenu de la vision du monde qu'elle développe, qui paraît parfois assez surréaliste, pour ne pas dire hallucinante, on peut craindre à ce moment-là que le pays… sera gouverné, éventuellement s'il y arrivait, par une dirigeante qui pourrait nous faire plonger encore plus bas que là où nous en sommes aujourd'hui.
Oui, alors, on est sauvé par l'humour. Vous savez que Mme Le Pen, maintenant, sur le plan financier, est plus orthodoxe que François Bayrou.
Oui, hein, oui, c'est-à-dire oui qu'elle elle a fait de gros progrès d'annonce.
Bon, mais je crois que pour prendre du recul sur le sujet, nous sommes dans le déferlement du populisme. Dans le fond, Madame Le Pen, c'est une dirigeante populiste qui s'est recentrée, et M. Macron, c'est un dirigeant centriste ou néo-centriste qui est devenu de plus en plus populiste. Hein. Et donc, c'est la question du populisme qui est la volonté de flatter le peuple, de ne pas dire la vérité et de déconstruire la réalité. Bon, on l'a bien vu avec Trump, on a analysé ça au scalpel. Il déconstruisait la réalité et il racontait une histoire parallèle. Eh bien, nous ne sommes pas loin de là en France, oui.
Oui, tout cela est quand même assez inquiétant. Donc, perte de vos quatre sorties de route, je les rappelle, si vous voulez les recommander, mais perte de contrôle de la crise sanitaire, risque d'une crise financière, divergence dans la zone euro. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, mais que vous allez peut-être aborder maintenant, qui me semble fondamental, c'est la montée des inégalités, parce que notre pays est fracturé aujourd'hui. J'ai entendu un certain nombre de parlementaires et de parlementaires anciens, c'est-à-dire de gens qui ont du métier, qui se désolent de voir que là, en France, on ne peut plus se parler, on ne peut plus échanger, on ne peut plus avoir un véritable débat démocratique et républicain. Ces inégalités aujourd'hui qui sont de plus en plus criantes sont certainement à l'origine de ce phénomène.
Oui, il faut relier la question des inégalités à la question de la bulle financière et de la bulle monétaire. Et ce n'est pas pour critiquer la BCE que je dis ça. Mais ce matin, Nouriel Roubini, qui est un économiste américain, qui est le seul quasiment à avoir prévu la crise de 2008, puisqu'il l'avait exprimée devant les Nations Unies en 2005 ou 2006, si ma mémoire est bonne, nous explique que le niveau des actions, et c'est un lien avec la question des inégalités, parce que les gens qui ont des actions s'enrichissent, est aujourd'hui, par rapport aux espérances de profit, au même niveau qu'en 1929, c'est-à-dire anormalement élevé. Alors, effectivement, ceux qui ont des biens immobiliers, ceux qui ont des actions, ceux qui ont des obligations, donc des portefeuilles, s'enrichissent, et ils s'enrichissent, comme disait le président Mitterrand, en dormant. Et pendant ce temps-là, les jeunes se paupérisent. Il y a une paupérisation des jeunes aujourd'hui qui est extraordinaire et qui est documentée. Nous avons 1 million de pauvres en plus. Les patrimoines, depuis 10 ans, je crois que je l'avais dit lors de la dernière émission, ont été triplés. Et donc, cette montée des inégalités, qui n'est pas combattue actuellement. Actuellement, il n'y a aucune mesure fiscale correctrice. Pour moi, ces mesures devraient être prises dans le cadre européen. Sont lourdes de menaces en termes de mouvements qui pourraient être des mouvements insurrectionnels, type gilets jaunes, ou plus grave encore. En fait, ce sont deux risques qui sont liés, bulle financière et inégalité, ils sont complètement indissociables, et ils sont la contrepartie de la monétisation massive de la dette.
Oui, alors toute chose qui, effectivement, laisse songeur, et nous sommes dans l'inconnu économique, sanitaire et politique, ce que je disais tout à l'heure, la plus complète. Comment peut-on envisager, si je suis chef d'entreprise, avec autant d'incertitudes, comment je peux envisager l'avenir de mon affaire, comment je peux me projeter dans l'avenir, imaginer des investissements, des partenariats commerciaux, etc. Comment aujourd'hui gérer une entreprise ?
Bon, moi je voudrais vous dire, je suis un homme enthousiaste et je ne cultive pas le pessimisme. Donc, je peux maintenant, en quelques mots, tracer un scénario optimiste, mais après avoir fait toutes les réserves que j'ai faites. Bon, au mois de mai, le Premier ministre a atteint son objectif d'avoir vacciné tous les Français fragiles et les plus de 65 ans, et on explique aux Français qu'il faut se refaire vacciner à nouveau contre le Sud-Africain et contre le Brésilien, et les Français l'acceptent avec bonne humeur. D'ici là, on trouve des solutions pour produire les vaccins en masse, et dans le fond, on achève la vaccination à la fin de l'année 2021, et l'économie remonte finalement normalement vers le niveau de 2019. On aura peut-être une secousse financière, mais on l'absorbera. J'ai expliqué comment, dans notre émission du 29 janvier, que les auditeurs pourront écouter sur la collection de podcasts. Et donc, on peut avoir un scénario de retour à la normale. Mais ce qui me rend pessimiste, encore une fois, c'est que les sujets ne sont pas traités, ils ne sont pas débattus, ils ne sont pas abordés avec l'objectivité nécessaire. Alors, à votre question, comment un chef d'entreprise, vous savez, moi j'en ai rencontré 1 000 000 dans ma vie en tête-à-tête, c'est quelqu'un de fondamentalement optimiste. C'est quelqu'un par définition, croit dans l'avenir. Voilà la réponse. Et c'est quelqu'un qui se passionne pour ses produits.
Oui, mais il croit, moi aussi. Alors, mon métier ancien, puisque nous sommes deux anciens aujourd'hui, un peu comme les vieux du Mopecho. Non, j'espère quand même que nous donnons meilleure image. Nous avons tous les deux vu ces chefs d'entreprise dans nos postes divers, mais on sait que pour diriger une entreprise, il faut anticiper. Comment peut-on anticiper dans une période où on ne sait absolument pas ce qui va se passer, où vous l'avez dit vous-même, plusieurs scénarios sont envisageables. Alors l'optimisme, c'est bien, on peut dire tout va bien se passer, j'investis, je mets des fonds, j'embauche des salariés, j'attaque de nouveaux marchés. Je ne sais pas si ça va être quand même l'attitude de nos chefs d'entreprise. On pourrait comprendre qu'ils soient quelque peu frileux. Mais s'ils sont frileux, eux, l'économie va s'en ressentir terriblement. L'économie.
Oui, alors ce n'est pas tellement qu'ils soient frileux, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Rex et Code, leurs marges ont été laminées. Finalement, qui a payé la crise jusqu'à présent ? C'est l'État et les entreprises. Donc, leurs moyens d'investir sont faibles. Et l'endettement est élevé. Moi, je crois que nous pourrions nous en sortir collectivement si nous osions enfin la vérité et ce qui découle de la vérité. Alors, il y a 200 milliards d'épargne supplémentaire. Il faut arriver à faire, comme le propose Jacques Delarosière, comme le propose d'ailleurs le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, il faut apporter cet argent en haut de bilan aux chefs d'entreprise sous forme de prêts participatifs. Mais ça, c'est quelque chose à monter. Il faut le monter actuellement. Moi, je crois que la principale difficulté, c'est que nous ne sommes pas lucides sur les perspectives. Et donc, comme on n'est pas lucide, on n'a pas les bons débats et on n'a pas les bonnes solutions.
Lucide, comment peut-on être lucide lorsque nous n'avons pas l'information et que nous avons une cacophonie épouvantable avec des intérêts divergents, avec des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Je sais que vous regardez beaucoup ce genre de débat et la télévision, moi je ne le fais plus, et vous m'avez confié tout à l'heure hors antenne que ça ne vous faisait pas beaucoup de bien de voir cette cacophonie, de voir ces postures que prennent certains dits spécialistes ou experts qui font que n'importe qui dit n'importe quoi aujourd'hui.
Oui, la cacophonie, il n'y a aucun doute, mais l'information est disponible. Enfin, moi, je pense que j'ai les informations tout simplement parce que je m'informe soigneusement. Donc,
et parce que vous avez le temps et les moyens éthiques et intellectuels de le faire, ce qui n'est pas donné absolument aujourd'hui à tout le monde.
Absolument. Le pire n'est pas certain. Nous allons avoir des vaccins. Les vaccins s'adapteront aux mutants. Mettons que les Français soient de bonne humeur et ne soient pas choqués qu'on leur demande de se vacciner sans cesse jusqu'à la fin de l'année 2021, que le virus arrête de muter, ouais, ça c'est aussi une condition, que M. le maire trouve les moyens de mettre les 200 milliards d'épargne à la disposition des fonds propres des entreprises, que les faillites qui vont nous submerger jusqu'en 2022 n'ébranle pas trop le système bancaire, oui, nous pouvons rebondir. Et finalement, le gouverneur de la Banque de France peut faire les 5% de croissance dont il nous parle à longueur d'antenne. C'est possible, mais oui, ce n'est pas certain du tout.
C'est possible, mais ce n'est pas certain. Et si on vous entend, vu le nombre de conditions qu'il faudrait réunir pour aller vers des lendemains qui chantent, et peut-être que c'est ce qui va arriver d'ailleurs, hein, rien n'interdit de le penser, mais enfin, il vaut mieux quand même avoir quelque chose qui est plus proche de la foi que de la raison.
Oui. Écoutez, moi, ce que je voudrais dénoncer aujourd'hui, c'est toutes ces personnalités que j'ai citées qui préconisent une stratégie zéro Covid et qui sont quasiment privées d'antenne. C'est-à-dire que leur message, Patrick Artus, ce n'est pas n'importe qui, Philippe Aguillon non plus. Leur message n'est pas entendu et il devrait y avoir débat autour de ce message. Et le président Macron a abandonné cette stratégie qu'il avait bien définie à la fin octobre. Son discours de fin octobre était impeccable. Mais depuis, il a complètement dérivé, il a abandonné. Voilà, donc ça, je le dénonce avec force aujourd'hui.
On vous a entendu. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale pour un peu adoucir notre propos. Alors, je vais vous proposer d'écouter un professeur de maths. Enfin, il le fut, professeur de maths, grand joueur de mots. Il a commencé à faire quelques cabarets, sa première chanson sur une scène parisienne il y a fort longtemps. Il a eu tellement peur qu'il s'est arrêté au milieu de la chanson et qu'il est parti en courant. Et on ne l'a revu que 15 jours après. Mais il a su domestiquer son trac. Il a fait les premières parties, notamment de Brassens, avant de faire une très jolie carrière de chanteur. Je veux parler de Bobby Lapointe.
Et oui.
Je vous propose de l'écouter dans Moi, le philosophe et l'esthète. Bobby Lapointe.
Nous étions trois, je commence par moi. Moi que l'on traite de poète, car je fais des vers un hivernais très raffiné, surnommé Ox et Bête. L'esthète de Nevers, j'ai tout dit sauf le philosophe. Je vous présente trois dilettantes et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète est mon qu'une présentation. Ce sera sans façon, c'était l'été. Et tel était notre soif que tout ce qui est à que même un piano aurait été par nous têter avec félicité. Si licite c'eût été même illégal, quelle ville régale nous eussions fait d'un jus de fluxion frais. Et je vous dis nous, moi, le philosophe. Et l'esthète mon qu'une soif à ce point. Ça ne se passe point, mais v'la-t-il pas, la a du pas. Je vois des murmures sur un mur et je murmure ami osé, ami osé, en poussant par en tous mes souliers souillés quand je suis sulfète.
une Suisse helvète. Me dit sache que cette chose ça s'achète. Mais je lui dis nous, moi, le philosophe et l'esthète aimant qu'une phase de fesse passe de pèse. Elle se fâche et là c'est vache. Sous le séant m'enlaçant salement, à sale moment elle me bascule et m'émascule. Qu'elle sans compère dise mes compères. L'ampoule de père elle les repousse pour lier ma bourse d'un fil à plomb. À quelle ville à plomb. Mais je lui dis nous, moi, le philosophe et l'esthète aimant qu'une fausse asepsis face à ses petits.
Voilà, c'était Bobby Lapointe, notre jongleur de mots national. Hein,
vous savez. Oui, c'est un virtuose, Bobby Lapointe. Je connais par cœur toutes ses chansons et je vais vous en trouver des très bonnes. Et c'est un peu difficile à suivre pour l'auditeur parce qu'en fait, il jongle littéralement avec les mots.
Ah oui, il faut l'écouter plusieurs fois pour avoir…
Absolument. Et moi, mais c'est un virtuose extraordinaire de la langue française et il nous a quittés à un âge anormalement jeune puisqu'il est mort à 42 ans, 43 ans. Il était originaire de Pézenas.
Pézenas, oui, on en connaît d'autres hein, qui sont originaires de là-bas et qui ont fait de grandes carrières. Maxime, je vous propose de vous parler de quelque chose qui s'appelle l'accaparement des surfaces agricoles et au plan mondial. Vous savez que oui. On s'est beaucoup posé la question des investisseurs chinois. À une époque, on en voyait partout, on disait mais ils achètent nos bonnes terres arables. Ça suscitait une grosse émotion auprès de la profession agricole. Ils avaient surtout acheté quelques fleurons, quelques châteaux et vignobles dans le Bordelais, dans le Médoc, qu'ils s'étaient appropriés d'ailleurs à prix d'or, hein, parce qu'ils l'ont quand même payé très cher. Et puis en 2016, ils avaient même acheté plusieurs centaines d'hectares de surfaces céréalières dans le Berry. De quoi évidemment entraver un peu l'installation de jeunes agriculteurs français ou de permettre aux fermes voisines de s'agrandir. Alors, on comprend pourquoi ça quand on sait qu'avec plus de 20% de la population mondiale, la Chine ne possède guère plus de 9% des terres disponibles, des terres arables disponibles sur notre planète. Alors, est-ce qu'on peut craindre un peu l'appétit des Chinois? Eh bien, pas vraiment, parce que nous sommes dans des pays, notamment en France et en Europe de l'Ouest, où le prix des terres arables reste encore très élevé. Et d'ailleurs, soulignons que l'entreprise chinoise qui avait acheté les terres berrichonnes que je citais à l'instant est déjà en redressement judiciaire. Par contre, l'accaparement des terres agricoles par de gros investisseurs étrangers, et là plus seulement chinois, est un phénomène qui est infiniment plus inquiétant dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, alors citons par exemple le Soudan, l'Éthiopie, le Ghana, ou d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Philippines, ou d'Amérique latine, Brésil, Argentine, Paraguay, puis même ça va s'étendre jusqu'à l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, ou même Europe de l'Est, puisqu'on en voit en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie, etc. Donc, savoir quand même que la Chine, qui n'est pas le principal, je vais revenir là-dessus, qui n'est pas le principal acheteur, exploite quand même aujourd'hui plus de 10 millions d'hectares en dehors de ses frontières, c'est considérable. Mais parmi ces accapareurs, j'ai beaucoup cité la Chine, mais ce n'est pas la seule. On trouve aussi des entreprises coréennes, japonaises, indiennes, arabes, qataris aussi, vous le savez. Et même depuis 2008 et au moment où éclatait la crise financière des subprimes, de nombreux opérateurs privés, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement, les fonds de pension, ont pris le relais des entreprises nationales et se sont appropriés de vastes étendues de terres afin de diversifier leur portefeuille d'actifs. Et donc, au total, en une dizaine d'années, ce sont un peu plus de 30 millions d'hectares de terres agricoles qui auraient été acquis par des entreprises étrangères, et notamment dans les pays du Sud. Alors, une fois qu'ils ont acquis ces terres, qu'en font-ils? Eh bien, ils pratiquent la monoculture à grande échelle, c'est-à-dire le soja, la canne à sucre, le palmier à huile, etc., de façon à amortir au plus vite les gros investissements matériels. Conséquence de tout ça, conséquence de ces achats débridés, si je puis dire, conséquence de ces pratiques agricoles, eh bien, plusieurs inconvénients. D'abord, une érosion rapide des sols, un accroissement des pollutions chimiques et puis la mise en danger de la biodiversité. Je vais me limiter là, mais on pourra en citer d'autres. ça contribue aussi, cet accaparement des terres agricoles du Sud par une minorité d'investisseurs et surtout de spéculateurs, à expulser ceux qui exploitaient ces terres, une multitude de petits paysans qui vont donc se réfugier là où ils peuvent, c'est-à-dire dans des bidonvilles qui sont déjà surpeuplées et où de toute façon, ils n'auront aucune chance de trouver un emploi. Alors, les Chinois que j'ai abondamment cités ne sont pas les seuls à blâmer pour cela, et parfois même le péril se trouve au sein du pays. Regardez les entreprises du Brésil, par exemple, les entreprises nationales font partie de celles qui spolient le plus les agriculteurs. Et donc, à cause d'elles, de nombreux paysans ne peuvent plus retrouver de terre et ne parviennent plus à se nourrir correctement. Donc, c'est un problème économique important que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Et je vous renvoie d'ailleurs à la lecture de l'excellent livre Marc Dufumier, hein, qui est un... Alors évidemment, quand on s'appelle Marc Dufumier et qu'on est agronome, ça peut prêter à sourire, mais c'est un homme très sérieux, professeur agro-paritech, expert auprès des Nations Unies et de la Banque mondiale sur les questions d'agroécologie. Et donc, il a commis un livre que j'ai déjà cité, 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation, de la terre à l'assiette, d'où j'ai extrait les quelques idées que je viens de vous livrer. Je ne m'interdis pas d'ailleurs de réitérer sur d'autres domaines. C'est un livre absolument passionnant et qui nous amène à nous questionner sur nos pratiques financières et puis agricoles, sachant que dès que l'on parle d'agriculture, eh bien, tout cela arrive dans notre assiette et vous voyez ce qu'il peut en découler. Un commentaire, Maxime ?
Oui, ce que vous décrivez, c'est le contraire de la résilience et c'est surtout le contraire de la vision à long terme. Et ça recoupe parfaitement mon modeste propos de tout à l'heure sur la crise sanitaire. On retrouve toujours cette incapacité de nos sociétés à anticiper et à voir les conséquences à long terme d'actions qui sont menées soit pour le profit immédiat, soit pour le confort politique immédiat.
Voilà, comme le disait un président de la République que nous avons eu il y a quelque temps, mon ennemi, c'est la finance. Enfin, il disait ça pendant la campagne.
Oui, bon, alors, bon, d'accord.
Voilà.
Le bourget, François Hollande.
Voilà, c'est exactement ça. Je vois que vous connaissez bien vos classiques.
Nous... Et il y avait à côté de lui un jeune garçon du nom d'Emmanuel et qui a dit, alors, c'est Cuba avec le soleil. C'est Cuba sans le soleil.
Oui, un certain Emmanuel qui, après s'être fait un prénom, s'est fait un nom aujourd'hui.
Oui.
Et dont nous avons abondamment parlé aujourd'hui sans être sûr qu'il passe véritablement à la postérité, si je vous ai bien entendu. Maxime, nous arrivons dans la dernière ligne droite, non pas des Hunaudières, mais de notre émission. Alors, on pourrait parler de l'économie en Occitanie, mais…
Bon, un tout petit mot pour dire que les dernières enquêtes confirment que l'économie en Occitanie est un peu en dessous du national, pour deux raisons que vous connaissez. La première, c'est l'aéronautique qui n'est qu'à 70% de sa capacité. Et la deuxième, c'est, vous connaissez aussi, c'est le tourisme. Hein. Nous sommes une région du Sud très touchée par le tourisme, très, très polarisée sur le tourisme, donc impactée plus fortement que les autres par la crise sanitaire. En revanche, nous avons notre première industrie régionale qui est l'agroalimentaire, qui est un bon niveau, qui est conforme au national. Et nous avons pour le moment un bâtiment qui se porte bien.
Bon, et puis il fait bon vivre en Occitanie, espérons que ça dure et que les températures ne montent pas suffisamment pour nous obliger à migrer vers le nord ou la Bretagne, comme certains de nos concitoyens l'ont fait. Conseil de lecture pour terminer cette émission. Alors moi, je vais vous amener complètement ailleurs. J'ai écouté une émission qui m'a enthousiasmé, passionné même, et sur France Culture. Et j'ai voulu me procurer ce livre-là que j'ai sous les yeux. Et ça s'appelle « L'Odyssée des gènes ». Ça a été écrit par Evelyne Heyer, une dame qui est professeure d'anthropologie génétique au Muséum d'histoire naturelle, familière des Pycnées et des peuples d'Asie centrale. Elle a effectué bien évidemment de nombreuses missions sur le terrain et elle cherche à évaluer l'effet de la culture sur notre évolution génétique. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est parfaitement à même de discourir sur cette question. Et alors, elle nous dit, je cite quelques phrases de la quatrième de couverture, « Les gènes sont une fascinante machine à remonter le temps depuis que nous savons faire parler non seulement l'ADN des sapiens actuels, mais aussi celui de nos lointains ancêtres. » Et elle nous fait partager les derniers résultats de laboratoire ainsi que ses péripéties de terrain. Et on comprend, d'abord on comprend l'aventure humaine, ce qui nous permet de prendre de la hauteur, de relativiser. Elle nous explique comment nous nous sommes séparés il y a 7 millions d'années à peine. Alors au niveau effectivement scientifique, c'est trois fois rien. Et elle nous explique comment on a pu conquérir. Evelyne Heyer, comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes? Comment nous avons pu cheminer sur tous les continents? Comment nous avons pu brasser? Comment nous avons pu découvrir et peupler de nouvelles régions? Donc c'est un livre extrêmement intéressant qui permet de prendre de la hauteur, du recul, qui peut être à un moment où l'on parle beaucoup de migration, où l'on voudrait cantonner les gens chez eux, nous explique que dans l'histoire, si nous en sommes là où nous en sommes, c'est grâce au brassage et grâce à la migration. Certains dont nous évoquions le nom tout à l'heure comme de possibles prétendants à la magistrature suprême, comme l'on dit, devraient le lire avec profit. Voilà, je vous rappelle le titre « L'Odyssée des gènes » de Evelyne Heyer aux éditions Flammarion. Nous sommes arrivés à présent au terme de cette émission. C'était Economica, une émission de Maxime Maury et Jacques Lavergne, avec à la réalisation et plutôt montage aujourd'hui Yadis Boudin. Une émission que vous pourrez retrouver sur le podcast, sur le site d'Esprit Occitanie ainsi que sur l'application dédiée pour smartphone. Quant à nous, nous nous retrouverons, Maxime, moi-même et nous l'espérons, vous très nombreux, le vendredi en 15 à 18h pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.